VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Midi à Kinshasa, bonjour à tous. Au Burundi, les mototaxis sont interdits de circulation dans le centre de Bujumbura à partir de ce mardi, a annoncé le maire de la capitale du Burundi au lendemain d'une série d'explosions de grenades qui ont fait un mort et une trentaine de blessés. La décision a été prise hier lors d'une réunion d'urgence des responsables administratifs et sécuritaires de Bujumbura après les explosions d'au moins 5 grenades dans plusieurs quartiers de la capitale qui ont causé la mort d'un enfant et blessé une trentaine de personnes. Les transports en commun étaient, eux, paralysés ce matin à Kinshasa, où une coalition d'opposition a appelé à une grève générale d'avertissement au président congolais Joseph Kabila. L'opposition accuse M. Kabila au pouvoir depuis 2001 et dont le mandat s'achève en décembre de manœuvrer pour contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter afin de se maintenir à la tête de l'État. La coalition des Congolais de la transition, CCT, souhaite obtenir le départ volontaire ou forcé du président Joseph Kabila. C'est ce qui justifie son soutien à la journée ville morte décrétée par les forces acquises au changement. Journée prévue aujourd'hui donc en RDC. Léon-André Katamboué, le vice-président de la CCT.
Le peuple est en train de souffrir, la pauvreté est en train de continuer et il n'y a pas vraiment une solution. Alors le peuple en a marre. La coalition des Congolais pour la transition a une vision développementale.
Alors vous avez décidé de soutenir la journée ville morte décrétée ce mardi 16 février par toutes les forces acquises au changement. Qu'est-ce qui justifie ce soutien?
C'est pour commémorer l'anniversaire de nos martyrs. Nous sommes là pour soutenir toutes les forces vives qui veulent que la journée soit une ville morte. La coalition des Congolais aussi est pour cela parce que nous sommes en train de commémorer l'anniversaire de nos martyrs.
Léon-André Katambou est vice-président de la CCT au micro de John Lydon. Fin hier au Congo-Brazzaville de l'inscription sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Pendant les 30 jours qu'a duré l'opération, les observateurs ont remarqué une nette affluence des partisans de l'opposition. Correspondance Ngoula Nguessou.
Des jeunes habitués au boycott et à l'abstention se donnent aujourd'hui de bonnes raisons pour voter.
Je demandais même à ma femme de rester à la maison parce que les jeux étaient faits d'avance.
Nous sommes décidés au Sénat tout moment pour faire triompher le CODEA.
Atalangaï et Awenze, fief du PCT, le parti au pouvoir, l'heure est aussi à l'éveil.
J'ai l'habitude de voter. Là, je suis venu seulement pour mon fils qui vient à peine d'avoir 18 ans.
Avec le recul, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila, livre lui cette analyse.
La forte mobilisation avant le référendum est en train de faire son chemin. Ces jeunes et les leaders politiques espèrent que vraiment dans les urnes, ils peuvent mettre en difficulté le président sortant.
Il faut noter par ailleurs que les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 25 février pour s'y déclarer. Nguela Nguessou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
À 2 jours de la présidentielle en Ouganda, la tension monte d'un cran entre l'opposition et la police. Hier, une personne a été tuée dans de violents heurts à Kampala. La police a fait usage de gaz lacrymogène et brièvement arrêté Kissa Besigye, l'un des principaux challengers du président sortant Yoweri Museveni. Eric Manirakiza.
La police ougandaise qualifie de confusion des affrontements avec les partisans de Kizza Besigye. Le chef du Forum pour le changement démocratique, FDC, voulait tenir son meeting politique dans le centre de Kampala. Fred Enanga, un porte-parole de la police, a affirmé que des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour maîtriser une foule belliqueuse qui, selon lui, a défié les directives de la police sur la manière dont cette foule était autorisée à se déplacer en ville. La police reconnaît un mort, tandis que l'opposition parle de 3 personnes abattues. Durant ces violents heurts, Kizza Besigye a été brièvement interpellé avant d'être relâché quelques minutes après. L'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique pour l'élection de jeudi et alignera 7 candidats face à Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et candidat à un 5e mandat.
La Libye va marquer demain mercredi, dans un climat morose, les 5 années de la révolution populaire qui mit fin à la dictature de Muammar Kadhafi. 5 ans après la révolte populaire Les Libyens ont quasiment perdu espoir de voir un état de droit instauré dans un pays divisé, affaibli et menacé par l'expansion djihadiste. Malgré l'annonce dimanche de la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'incertitude demeure sur son approbation par le Parlement reconnu internationalement et sur sa capacité à imposer son autorité dans un pays miné par le conflit entre factions rivales.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le climat politique semble s'envenimer les prochains mois à Washington. Cette fois, la bataille politique entre les républicains au Congrès et le président Barack Obama porte sur son droit de nommer dès à présent le remplaçant à la Cour suprême du juge Antonin Scalia, décédé pendant le week-end. Pour les opposants à M. Obama, il devrait plutôt laisser ce choix à son successeur. Les précisions, Idrissa Seydoudia.
Le président Obama a déjà choisi 2 des 9 juges de la Cour suprême depuis son accession à la Maison-Blanche. Les républicains qui contrôlent la Chambre haute tout comme la Chambre basse pourraient bien laisser languir cette nomination et attendre simplement que M. Obama termine son mandat sans agir sur le choix qu'il leur aura soumis. Mais les alliés démocrates du président accusent déjà les républicains d'obstructionnisme et pourraient forcer M. McConnell a au moins laissé le Sénat examiner la nomination, quitte à la rejeter éventuellement. Selon des analystes, le président pourrait proposer le nom d'un des 2 juges de cour d'appel dont la nomination a été approuvée à l'unanimité des membres du Sénat. Il s'agit de Sri Srinivasa, qui deviendrait ainsi le premier Indien américain de la Cour suprême, et de Jane Kelly. Parmi les autres possibilités, la ministre de la Justice Loretta Lynch et le sénateur du New Jersey, Cory Booker. Les analystes se demandent aussi si le président cherchera surtout à faire entériner son choix en proposant quelqu'un qui bénéficierait du vote d'au moins quelques parlementaires républicains. Il pourrait en revanche suggérer quelqu'un plus proche de ses vues de centre-gauche qui serait vraisemblablement rejeté, mais dont le rejet pourrait galvaniser la base démocrate lors des scrutins présidentiels et législatifs de novembre et aboutir à la reprise des 2 chambres du Congrès par son parti.
L'ancien président américain George W. Bush a fait pour la première fois campagne pour son frère Jeb, candidat aux primaires républicaines en vue de la présidentielle, assurant qu'il avait le tempérament d'un chef d'État. J'ai vu Jeb en action, sa main ne tremble pas lorsqu'il est confronté à l'imprévu, a déclaré George W. Bush à propos de son frère cadet, qui espère que la primaire de samedi en Caroline du Sud va le replacer au cœur de la course après sa 4e place dans le New Hampshire. L'ex-président a également appelé les Américains à ne pas élire le milliardaire Donald Trump, toujours en tête des sondages dans cet État où les 6 candidats républicains font en ce moment campagne. Et l'espoir d'une trêve semblait s'éloigner hier en Syrie où 50 personnes, dont des enfants, ont été tuées par des missiles tirés sur des hôpitaux et des écoles, l'ONU dénonçant des violations flagrantes du droit international. Tatiana Mossou.
Les attaques contre 5 établissements médicaux et 2 écoles dans les provinces septentrionales d'Idleb et d'Alep jettent une ombre sur les engagements pris par le groupe de soutien international à la Syrie sur une cessation des hostilités, a estimé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Lundi, un hôpital soutenu par Médecins sans frontières, MSF, dans le nord-ouest du pays, a été pris pour cible par des frappes aériennes qui ont tué au moins 7 personnes, tandis que 8 membres du personnel étaient portés disparus selon l'ONG. Les frappes étaient vraisemblablement russes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'UNICEF a indiqué que 4 hôpitaux, dont 2 soutenus par l'organisation, avaient été frappés. 2 écoles dans la ville d'Azaz ont aussi été bombardées et 6 enfants y sont morts. Les États-Unis ont dénoncé ces bombardements, fustigeant une nouvelle fois la brutalité du régime du président syrien Bachar al-Assad et son allié russe qui mène une campagne de frappes aériennes en Syrie depuis le 30 septembre. Washington a par ailleurs exhorté lundi la Russie et la Turquie à éviter toute escalade au moment où le ton devient de plus en plus acerbe entre Moscou et Ankara, témoignant de l'internationalisation du conflit syrien.
et 4 des 5 hotspots d'enregistrement des migrants prévus sur les îles grecques situées face à la Turquie sont prêts à fonctionner et à accueillir les réfugiés, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Défense grecque, Panos Kamenos. La Grèce, qui a vu transiter 50 000 migrants, est critiquée par l'Union européenne pour sa lenteur à installer ses centres. Elle s'était engagée à ce qu'ils soient prêts pour le sommet européen des 18 et 19 février. Jean-Roger Billon, le prochain journal, ce sera avec Henri Francisque, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.